aviez déjà dansé au pavillon noir ?
Non, non, c'est la première fois. La salle est très bien. Le rapport, l'intimité avec le public est très positif, donc on était contents hier.
C'était la première en France de 100 Length of Needles. Comment s'est fait cette collaboration avec le Festival de Marseille ?
Ah, ils sont venus à Budapest qu'on a présenté. C'est la longueur de son aiguille. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas traduit le titre en français. Parce que je voulais, c'était pas une conception d'avoir le titre en anglais. Voilà. Voilà, ils sont venus à Budapest et ils ont aimé cette première version il y a un an. Et voilà, et donc ils nous ont programmé.
C'est un travail qui a été préparé, je crois, à Kosnitsa, un atelier de création régionale que vous avez fondé là-bas.
Oui, c'est à Kanija, ou à Kanija en hongrois, si vous voulez. C'est ma ville natale en Vojvodine, en Serbie. Et depuis quelques années, je dispose d'un lieu de travail que la ville m'a offert, ou construit plutôt. Et comme ça, je peux travailler pendant mes vacances là-bas avec des amis et quelques personnes de ma compagnie, surtout des Hongrois qui sont juste à côté. Et donc voilà, cette pièce était faite l'année dernière, pendant le mois d'août, pour le festival de jazz à Kanija, parce que mon ami Zoltan organise aussi un festival de jazz tous les mois de septembre. Et on a présenté, la première était là-bas l'année dernière, et tout de suite après à Budapest, et maintenant Düsseldorf et Aix. Donc voilà, c'est une pièce très fraîche, donc j'espère que ça va rebondir maintenant.
Kosnitsa, c'est un endroit assez particulier. J'ai cru comprendre que c'est une enclave hongroise, en fait, qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie et qui maintenant est en Serbie, mais qui fonctionne de façon un peu autonome.
La région, la Voïvodine, oui, a une pseudo-autonomie, mais tout est dirigé de Belgrade, donc de la capitale. Et nous, au nord de la Voïvodine, donc effectivement, il y a une importante minorité de population hongroise, et donc je suis issu de cette population. Donc ma culture, ma langue maternelle est hongroise. Et disons, on a une petite. C'est pas vraiment une autonomie régionale autour de la ville, mais disons qu'on a un regard un peu plus protégé sur la nature ou sur d'autres questions politiques concernant la localité, donc Kanija.
Est-ce que vous travaillez des propositions différentes à Orléans et à Kosnitsa ? Est-ce qu'il y a une logique particulière ?
Non, c'est la présence de personnes qui influencent surtout. Donc voilà, ici pour cette création, le compositeur Mzei Szilárd habite juste à côté de Kanija, à Senta, à 20 km. Donc il est sur place avec ses musiciens qui travaillent à Novi Sad. Et donc c'est très pratique d'avoir des gens sur place. Et aussi c'est l'occasion, parce que je ne peux pas inviter tout le monde et on n'a pas assez de moyens à Orléans pour pouvoir travailler d'une manière continue avec qui je veux. Donc c'est une combine qui m'allège un peu.
Et donc vous vivez dans les deux endroits, en France et là-bas
Surtout en France, c'est seulement l'été quand le centre se ferme et pendant les vacances d'hiver que je rentre.
Votre vocation artistique est née pendant votre enfance là-bas à Kosnitsa ?
Oui, et à Novi Sad, j'avais fait des études de graphisme, de beaux-arts. Et après, à Budapest, je voulais continuer un peu avec l'histoire de l'art.
À Budapest, c'était dans les années 70, donc si je calcule bien, comment c'était là-bas dans les années 70 par rapport à Konnichiwa ?
Bah, il y avait une différence parce que Konnichiwa faisait partie de l'ex-Yougoslavie et on avait un peu plus de liberté que les Angoura de Hongrie. Ça veut dire que j'avais un passeport avec lequel je pouvais voyager, on avait des publications, des traductions qu'on ne pouvait pas trouver en Hongrie, et en Hongrois et en Serbe. Donc voilà, donc le Budapest avait un climat particulier à cause de justement la situation de ce qu'on connaît dans le pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Donc il y avait une censure assez forte. Mais ça, évidemment, ça provoquait une sorte de réaction de la part des artistes. Donc il y avait un mouvement underground, un vrai underground. Donc j'ai un peu participé à ça pendant 2 ans, donc à la fin des années 70. Donc c'est un peu disparu maintenant. Je dirais qu'aujourd'hui en Hongrie, la situation est plus difficile avec cette liberté, cette démocratie, avec cette terrible ouverture soudain qui est, donc les jeunes sont un peu désemparés. Donc, voilà.
Dans les années 70, cette intense activité culturelle underground était liée à des mouvements politiques?
Non, c'était purement artistique. Bon, il y avait évidemment aussi des actions un peu politiques ou sociographiques ou historiques ou d'autres. Donc ceux qui pouvaient procurer de la littérature interdite, entre guillemets, ou des informations. Donc ça se passait par le samizdat ou par de conférences dans des appartements.
Vous avez fait des rencontres importantes pour la suite de votre parcours à ce moment-là?
Bah, surtout avec le compositeur Sabadosh, avec qui j'ai collaboré plus tard, donc qui animait un atelier de musique libre, comme on appelait à l'époque, donc surtout de musique improvisée. Donc c'était le plus grand d'influence de cette époque-là. Et aussi la rencontre ou la découverte de Studio K, donc un troupe de théâtre indépendante à l'époque qui faisait de spectacles de manière très 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 engagée physiquement aussi et c'est ça ce qui m'a donné envie de faire de théâtre d'abord.
Et pour cela, de venir en France, comment a été prise cette décision?
Je voulais voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, donc voilà, je suis venu.
La France, ça représentait un endroit particulièrement intéressant.
Oui, Paris, à l'époque, ça vraiment, ça m'est convenu. Et c'est là que je découvre la danse contemporaine, donc je me suis jeté dedans. Donc j'ai galéré matériellement pendant des années, mais au fur et à mesure, donc je commençais à m'en sortir. Donc j'étais engagé comme danseur. Après 86, démarrage de ma compagnie, et jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'arrête pas.
Vous êtes arrivé au moment où une politique culturelle en France se développait de façon importante et où donc il y a eu cette développement de la nouvelle danse aussi. Et vous vous souvenez de votre arrivée en France, de vos premières impressions?
Bah oui, bien sûr. C'était formidable. Donc dans le sens que enfin je pouvais voir mes orchestres de jazz préférés, donc Art Ensemble of Chicago, Steve Lacy. Donc j'ai profité aussi de voir des expositions, donc c'était vraiment toutes sortes de spectacles, donc c'était incroyable. Tous les jours je sortais, je voyais quelque chose, donc j'ai progressé donc énormément avec un rythme incroyable.
Et matériellement, vous faisiez comment alors?
Bah, j'ai joué dans des rues, donc j'avais des petits sketchs, et après j'ai commencé à donner des cours un peu partout dans les banlieues, même dans des appartements. Voilà. Donc je me suis débrouillé comme ça.
Et en 86, vous prenez la décision de fonder votre propre compagnie, la compagnie du GEL, c'est ça? Le signe
théâtriel, oui. Je savais dès le départ que je veux faire des pièces, donc j'ai juste pris mon temps. 6 ans à Paris, et après Voilà, ça s'est s'avéré que ça marchait plutôt bien la première pièce. Donc à partir de là, j'ai trouvé des coproducteurs, donc je pouvais travailler plus facilement.
La reconnaissance a été immédiate dès la première pièce.
Ouais.
Je crois avoir compris aussi que les premières pièces que vous avez montées, c'est comme la dernière là, qu'on vient de voir, c'était fortement lié à votre village d'origine, en Voïvodine.
Oui, surtout les premières. Ou le troisième, quatrième, cinquième, c'était lié à la littérature de ma région. Après, j'ai ouvert un peu vers d'autres auteurs, comme Beckett, Borges, ou Raymond Roussel. Et c'est à nouveau là, en ce moment, je m'inspire beaucoup de la nature de là-bas ou de mes impressions de là-bas. Donc voilà, il y a après un boucle, après 20 ans de travail, donc il y a un nouveau retour de ma sensibilité ou de mon regard.
Ça ressemble à quoi d'ailleurs, Konnichiwa, les paysages là-bas?
C'est tout plat, c'est comme un désert. Bon, il y a l'agriculture qui marche à fond, donc c'est très minima. Donc voilà, il faut chercher les détails pour s'accrocher, mais pour moi c'est ça le paysage.
Et les gens sont la plupart agriculteurs?
Oui, c'est surtout ça, oui. Moi dans ma petite ville, donc il y a aussi une usine de briques et beaucoup de gens travaillent là-bas.
Vous disiez que vous travaillez par cycle, là vous parliez d'un travail autour d'écrivains à plusieurs reprises dans différentes pièces. Quels ont été les autres cycles et quel est le cycle en ce moment dans lequel vous pensez être?
En ce moment, j'ouvre plus en plus vers la visualité, donc de faire de tableaux sur le plateau. Donc la dramaturgie visuelle devient de plus en plus importante et aussi et parallèlement je fais pas mal de recherches avec des musiciens improvisateurs et donc je crée quelques spectacles où il y a disons beaucoup d'improvisation.
On connaît votre intérêt parce que vous en parlez assez volontiers pour la musique jazz improvisée, mais par contre quand on voit vos pièces on a l'impression que tout est écrit au millimètre. Il y a de l'improvisation dans vos pièces?
Oui, énormément. Mais ce sont des musiciens qui ont d'habitude de faire, donc il y a une assurance incroyable.
Non mais là je parlais pas de la musique, je parlais plutôt de la chorégraphie.
Bah, c'est pareil, donc je travaille avec des gens qui ont un peu d'habitude et qui assument, qui savent assumer ça. Donc ça donne l'impression comme si c'était écrit. Bon, évidemment, il y a le tremble, les situations sont définies, et des fois à l'intérieur, des petites phrases bien écrites. Mais il y a beaucoup d'espace laissé ouvert volontairement pour chaque soir trouver les meilleures solutions.
Vous dansez très très souvent dans vos pièces, je crois même que c'est à quelques exceptions près tout le temps. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez besoin d'être impliqué physiquement dans le spectacle pour écrire?
Oui, c'est une pratique que je voulais pas laissé comme interprète, comme danseur. Et je me suis habitué donc de voir mes pièces devenir à l'intérieur, de l'intérieur. Et voilà, et donc je suis devenu accro à ce mode de travail. Donc c'est, et mes danseurs aussi, donc ils sont d'accord. Donc je partage mieux, donc je comprends mieux ce que je fais, ce que je cherche. Voilà.
Comment ça se passe, votre écriture, l'écriture d'une pièce de Joseph Nadge?
Comment ça se passe, quoi?
L'écriture, quel est le point de départ? Comment ça se développe? Comment vous travaillez pour arriver jusqu'au spectacle?
Bon, il y a, évidemment, tout s'est fait dans la salle de répétition, avec beaucoup d'improvisation, mais en gros, je prépare une année, une pièce mentalement, en amont. Je fais des notes, des petites esquisses de la scénographie. Après, on y va, non? Après, il faut le faire. Et souvent, on est très loin de mes notes. Mais c'est ça ce qui m'intéresse, parce que c'est surtout quand je travaille avec beaucoup de monde, donc j'intègre leur vision, leur réponse à mes questions. Donc forcément, je modifie beaucoup la trame, la dramaturgie.
C'est un processus de création qui a toujours existé de cette façon-là ou qui a évolué au cours du temps?
Dès le départ, j'aimais travailler comme ça, donc et comme ça me va vraiment bien, je garde, je ne veux pas changer.
En 1995, vous êtes devenu directeur du Centre chorégraphique national d'Orléans. Pourquoi vous avez voulu diriger ce centre chorégraphique?
C'était plus pratique d'avoir un lieu fixe. C'était ça la raison. Parce que je travaillais avec des décors, il fallait entreposer des décors. Et je garde beaucoup de pièces en répertoire. Donc, c'est juste une question pratique.
Ça vous a apporté des choses particulière en dehors de cet aspect pratique dans votre démarche artistique de diriger ça?
Oui, il faut avoir une bonne équipe et plus ça roule bien. Donc non, je ne vois pas de la différence entre comme j'étais compagnie indépendant et maintenant.
On parlait de Konnichiwa, la Volvodine, tout ça. Comment vous avez vécu ce moment de guerre en ex-Yougoslavie? Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez monté Vojzek de Georg Büchner. Bon, on imagine que c'était lié. Comment vous avez vécu ce moment-là?
C'était difficile, évidemment, de constater l'éclatement du pays et surtout les fractures entre les nationalités. Donc j'ai réagi comme j'ai pu, donc d'ici, de distance, et aussi j'essaie de rentrer à l'époque le plus souvent possible pour soutenir mes amis qui sont restés là-bas. Donc j'avais fait deux pièces, le Wojciech et l'anatomie du fauve, qui parle un peu de pas concrètement de la guerre civile, mais de ces situations incongrues qu'une guerre civile peut représenter pour une population.
Büchner, Antonin Artaud, Raymond Roussel, pas mal d'autres. Qu'est-ce qui vous séduit chez ces écrivains, la vie qu'ils ont menée, leur écriture?
Ça dépend. Par exemple, chez Borges, c'est surtout l'écriture, parce qu'il n'avait pas une vie intéressante, il était tout le temps dans des bibliothèques. Par contre, Raymond Roussel avait aussi une vie extravagante. Donc je me suis inspiré aussi de sa vie et de son œuvre. Sur Artaud, donc c'est aussi évidemment ça, son parcours. Sa situation dans des asiles, et donc cette énorme lutte mentale et physique avec son corps et avec son entourage, avec son temps, donc il y a des auteurs qui sont que leur œuvre est très très liée à leur vécu, à leur expérience physique. Je ne sais pas à cause de ça que c'est toujours leurs écrits qui m'intéressent d'abord, et après si je découvre que je peux puiser dans leur vie, donc je le fais.
En tournée à Artaud, on se dit que le théâtre et son double, c'est quelque chose que vous avez lu attentivement, non?
Oui, mais c'est surtout les autres écrits, donc moi j'essaie d'éviter toujours de textes qui parlent du théâtre ou de textes écrits pour le théâtre, à l'exception de Wojciech. Je m'inspire toujours ailleurs. Donc c'est aussi une sorte de conviction que j'ai que tout peut devenir une source, une matière première pour la dramaturgie. Et donc je cherche toujours ailleurs.
On disait au début de cet entretien que vous êtes de culture hongroise. Qu'est-ce que c'est la culture hongroise?
Pour moi, c'est d'abord la langue et la littérature qui se découle de cette langue spécifique isolée ici en Europe. Et aussi la musicalité de ce peuple. Donc la tradition musicale, folklorique et aussi contemporaine, genre Bartók, Ligeti, Kurtág. Ou mes amis, comme Kurszé Leveini, ou Szilárd Mezei, ou Tick Meyer, avec qui je travaille aussi. Donc et Szabados. Donc pour moi, c'est surtout la musique, la littérature, et bien sûr aussi la peinture et le cinéma, qui est un peu moins connu ici, en France.
Akos, c'est quelqu'un on a l'impression qu'il a pas mal compté aussi pour vous. Vous avez eu de multiples collaborations avec lui.
Il est arrivé plus tard que moi en France. Donc on ne s'est pas connu tout de suite parce que j'étais déjà à Orléans, lui à Paris.
Dans des conditions difficiles aussi, je crois.
Oui, bien sûr. Tout le monde, c'est pas plus mal d'ailleurs. À un moment donné, oui, je suis allé vers lui, donc j'écoutais ses concerts à Paris et donc depuis quelques années maintenant on collabore, on ne s'arrête plus. Donc j'ai découvert aussi qu'il a un très très grand sens théâtral, pas seulement dans la musique improvisée, mais donc il voit et il sent quand il collabore avec moi, ou avec d'autres personnes d'ailleurs. Donc sa musique devient très juste par rapport à ce qui se passe sur scène, et c'est rare. Donc, tous les bons musiciens n'ont pas cette sens théâtral, lui il l'a, donc ça facilite encore une fois les choses.
En 2006, vous avez été artiste associé au Festival d'Avignon. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience?
C'était assez assez chargé, assez complexe de gérer l'immensité du festival, parce que ça reste quand même énorme. Et aussi, mais surtout l'expérience avec Michel Barcello, donc je voulais faire une pièce qui sort, donc une expérience nouvelle pour moi, et c'était l'occasion de faire une performance auquel j'ai pensé déjà depuis quelques années, et donc j'ai dû convaincre Michel pour sortir de son atelier, et c'est ce que j'ai réussi. Et donc on a fait cette création qui s'appelait Passo Doble et qui m'a ouvert beaucoup de portes après. Donc maintenant je suis c'est aussi ce chemin, donc je travaille, ça m'a libéré aussi quelque part. Et donc dans ces cas-là, donc il s'agissait de son univers artistique, ou visuel plutôt. Et maintenant, donc, je pense sur les miens, donc je mets sur scène mes idées visuelles.
Quand vous avez rencontré les gens de la nouvelle danse en France, là, au début des années 80, c'était François Véret, c'était Mark Tompkins, c'était Catherine Diveresse. Quelle a été leur influence sur votre pratique artistique?
Chacun quelque chose. Donc Marc, c'était surtout la danse contact improvisation qui m'a fait découvrir. Chez François Véret, donc cette responsabilité, cette liberté absolue de l'interprète, et que il s'est entouré toujours de gens qui proposaient beaucoup, mais il fallait être costaud aussi d'être co-auteur avec lui. Et chez Catherine Diveres et Bernardo Monté, c'était aussi une exigence physique et technique. Donc chacun m'apportait quelque chose de différent et aussi très important pour ma pratique.
Vous avez eu un duo avec un danseur de Pina Bausch. Est-ce que le travail de Pina Bausch, c'est quelque chose aussi qui vous a influencé?
Oui, c'est spectacle, oui. Mais quoique j'essaie d'éviter ces influences, parce que c'est très vite visible si quelqu'un imite Pina. C'était une occasion exceptionnelle aussi de travailler avec Dominique Mercy. Et donc ça, pour le vif du sujet à Avignon, il y a 10 ans, donc il m'a demandé de créer un solo pour lui, qui est devenu un duo. Et après on a rajouté une demi-heure et donc ça, on a tourné jusqu'à l'année dernière pendant 10 ans. Donc c'est une super expérience.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène face à un public?
C'est devenu normal maintenant, ça fait partie de ma vie d'aller vers cet état particulier qui est la présence pendant la représentation théâtrale. Ou chorégraphique, moi j'utilise toujours le mot théâtre pour la représentation. Cette sorte de rituel qui devient maintenant de plus en plus rare, même dans le spectacle, donc il y a dans le théâtre, donc il y a une tradition qui s'est éloignée de ça, donc le théâtre verbal. Ou dans la chorégraphie, dans la danse aussi, il y a toutes sortes de chemins, mais il y a très peu de personnes qui touchent dans le sens où j'entends l'événement théâtral. Ça veut dire que ça devient un rite, une cérémonie, une sorte de cérémonie quasi religieuse. C'est comme ça que je m'en sors pleinement. Je veux dire que c'est pas une aventure artistique pour moi d'abord, mais une aventure existentielle.
pour parler du spectacle donc, qui est présenté pendant le festival de Marseille et donc que j'ai pu voir hier soir, j'ai vu une façon d'apparaître sur scène et de disparaître sur scène très soignée, avec un silence très important au début de la pièce. Dans quel sens vous avez travaillé ce silence avant le déchaînement de la musique ?
Bah, on a créé une séquence, oui, qui questionne justement le bruit délicat, ce qu'on peut produire, et on a questionné quel moment le son devient musique, et c'est le rapport qu'après avec le tableau, pareil, donc comment un jet, un acte, une frappe, donc quels sont ces mouvements, ces nœuds d'énergie qui résultent après une image ou une série de sons qui s'organisent et qui se chargent de signes justement ou d'un sens. C'est toujours une recherche de sens caché et qu'on essaie de découvrir quel moment et comment, le mystère, quel moment il apparaît.
Il y a deux couleurs ou deux non-couleurs qui sont très présentes dans la pièce, c'est le noir et le blanc, avec toute une série de peintures en direct. Il y a même un moment où vous buvez en compagnie d'un danseur de la peinture blanche que vous recrachez sur des toiles noires. Alors on se dit tout de suite, en connaissant votre rapport à la littérature, qu'il est question d'écriture, là, l'écriture comme ça qui jaillit du corps.
C'est une autre écriture, c'est les origines du langage, des écritures possibles. Qui nous intéressait à voir. Tous les tableaux sont des pré-signes, des états embryonnaires de choses qu'on recherchait. Et donc c'est. Et aussi, on travaille beaucoup sur la condensation de l'acte et de comment faire avec très peu de temps et d'effets et de mouvements un tableau.
Qu'est-ce que c'est danser pour vous et qu'est-ce que c'est le corps pour vous?
Bah c'est ma première matière avec laquelle je m'exprime. Et danser, c'est à la fois c'est une chance parce que c'est une de l'expression la plus ancienne de l'homme, de s'exprimer avec son corps. Bon, évidemment, maintenant on construit plein de choses autour, mais c'est le mouvement du corps qui est au centre de nos pensées, de nos envies. Donc toutes nos idées passent par le corps. Donc c'est le corps qui va dire oui, c'est possible ou pas possible, ou quelle manière on peut vivre, on peut transformer. Comment on peut donner corps à des idées. Voilà.
Vous avez été enfant très impressionné par une danse de votre grand-père?
Pas seulement de lui, mais de plein de gens qui ne sont pas danseurs, disons, mais qui ont un sens de mouvement original. C'est toujours l'originalité que je recherche, donc cet étonnement de voir un corps bouger comme je n'ai jamais vu. Donc j'observe, bien sûr, dans ma région j'ai pu, pendant mon enfance surtout, il y en avait un peu plus de personnes comme ça, un peu étrange. Donc je les ai pu voir régulièrement, donc ils se sont gravés dans ma mémoire. Donc c'est pour ça que je le ressors un peu, le gestuel. Donc ils ont façonné un petit peu ma gestuelle aussi. Mais pas uniquement eux aussi, donc aussi les animaux, j'apprends beaucoup des animaux, comment ils bougent, et aussi de différents maîtres de danse ou de théâtre. Donc voilà, c'était un apprentissage assez complexe et assez ouvert.
On dit souvent que l'art c'est du côté de la vie, mais quand on voit vos spectacles, il y a toujours une dimension macabre dans vos pièces. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, parce que je... bah oui, mais je sais pas. Si quelqu'un trouve la réponse pourquoi la tragédie grecque était plus pesante que la comédie et que le théâtre et disons la théâtralité et la pensée théâtrale a son source dans la tragédie. Donc c'est... Je crois que c'est pas faux de se référer à ça ou à des rites qui sont pas de fait, parce que c'est le rite d'initiation ou d'autres sont plus proches de théâtre que le carnaval ou d'autres événements qui sont plus liés à des joies et de jouissance. Donc le théâtre, c'est un autre lieu. Par la souffrance, on crée quelque chose. On se libère.
La scène chez vous, c'est un lieu de métamorphose aussi, beaucoup.
Oui, bien sûr. Et aussi de... pas seulement de la souffrance, comme je disais tout à l'heure, c'est ça ce qui prime dans le travail, dans la pensée pour créer un monde qui n'existait pas avant. Mais il y a aussi le rire, l'humour, le grotesque, cet regard sarcastique sur le monde, sur nous-mêmes, sur l'humain, qui est aussi pesant. Donc c'est pas uniquement noir et tragique ce que je fais.
Et des mises en abîme aussi, d'un coup de se retrouver dans un espace encore plus vertigineux que le premier.
Moi, j'essaie de traverser tout le territoire, donc jusqu'à l'au-delà, donc jusqu'à la mort ou après la mort et avant la naissance aussi. Donc c'est notre vie ici, c'est aussi d'inspiration, mais je me projette aussi donc dans le passé lointain et aussi dans le, je dirais pas dans le futur, mais dans des espaces inaccessibles.
Quelques jours, vous allez présenter quelque chose à Moscou, un hommage à Tchekhov, je crois, Cherry Brandy. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette nouvelle création?
Oui, donc je viens de le terminer il y a quelques jours, donc avec 13 interprètes. Et voilà, ça c'est une pièce beaucoup plus écrite, donc il y a très très peu d'improvisation dedans, donc c'est une partition précise. Donc le point de départ était comme ça, on va jouer dans le festival de Tchekhov, donc je me suis intéressé à cette figure théâtrale, donc j'ai trouvé très peu de choses qui m'intéressaient finalement. Juste une figure dans ces petites pièces, dans ces petits actes. Un vieux acteur qui s'appelait Svetlovidov, ce qu'on pourrait traduire comme celui qui voit la lumière, et qui réfléchit dans le noir, sur scène à un moment donné, à la fin de sa carrière, il commence à poser la question, qu'est-ce que c'est un rôle, qu'est-ce qu'on devrait jouer encore, etc. Et après, j'ai découvert que Tchekhov, je ne savais pas, qu'il a écrit un livre, l'île de Sakhaline s'appelle, sur des camps concentrationnels de son époque. Donc il a fait une étude, un voyage au nord, au Sibérie. Et voilà, et ça c'était le moment de déclic et où je commençais à m'intéresser plus à ces mondes-là, donc de Goulag, qui est devenu le Goulag après. Et j'ai trouvé la figure de Mandelstam, un poète que j'aimais beaucoup déjà, qui est mort dans le Goulag. Et donc on s'est inspiré de sa poésie, de ce monde. Donc on imaginait comme les gens là-bas, les intellectuels, faisaient aussi du théâtre, de quel genre de théâtre ils auraient pu faire s'ils avaient la liberté. Donc c'est un questionnement comme ça, dans ce sens.
Pour terminer, il y a des grandes inquiétudes en France sur la politique culturelle menée par l'État, sur les possibilités qu'il va y avoir encore pour les artistes de travailler dans ce pays. Quel regard vous avez, vous, là-dessus?
Bah, pour moi, c'était jamais facile. Donc, quand j'étais... je constate que c'est regrettable que la France, qui a toujours défendu, que j'ai connu comme ça la France, d'un espace culturel bien protégé, bien prospère, que ça diminue et ça c'est... Donc c'est... Ça je trouve regrettable. Par contre, pour les artistes, je trouve que c'est un petit creux, c'est presque, je dirais, un bienvenu ça peut paraître sarcastique ce que je dis, mais pour répondre, pour dire, voilà, ceux qui veulent vraiment dire quelque chose, qu'ils créent, que chacun doit, comme une épreuve, prouver qu'il est capable de créer autrement s'il n'a pas de moyens. Par contre, je ne souhaite pas que la situation reste ou que ça aille dans cette direction-là. Et même, je dirais que c'est le 1% du budget de l'État pour la culture, c'est aussi ridicule. Et d'attaquer à ça, c'est vraiment une comédie. Donc, au moyen, un État devrait consacrer 10% de son budget à l'éducation, mais tout ce qui va avec. Donc c'est un constat morose que je fais, qu'on fait endormir toute une population. Les gens sont anesthésiés sans se rendre compte. Donc qu'il y a une surconsommation des images et de son bidon, par la télé, des haut-parleurs qui sont placés maintenant partout. Donc il y a un abrutissement général de la vie quotidienne. Et qui va avoir justement des effets, qui a déjà des effets, mais qui va avoir encore plus sur la sensibilité de gens. Le silence est tellement rare, le communiquer avec les gens, communique par l'internet au lieu d'aller vers. Donc les gens glissent dans un monde virtuel et ça me déprime.
Comment vous imaginez-vous la suite de votre parcours?
Bon, je ne l'imagine pas, je le fais. Maintenant, je vis jour par jour, je dirais. Donc chaque jour, je travaille, toute la journée, je dirais. Donc, ça sera le travail jusqu'au bout.
En France?
Ou ailleurs, donc je ne sais pas. Donc, pour l'instant, je reste en France, bien sûr.
Okay. Merci.